Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 2 février 2023, en direct de Washington, Idrissa Sebulia. Pour commencer, les titres. Vibrant appel hier à Kinshasa du pape François devant les cruelles atrocités perpétrées dans l'est de la République démocratique du Congo. Washington dénonce la libération au Soudan du meurtrier d'un diplomate américain. Frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza et roquettes palestiniennes sur Israël dans la nuit de mercredi à jeudi. Washington annonce de nouvelles sanctions contre les talibans après les restrictions imposées aux femmes. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le pape François poursuit ce jeudi sa visite en République démocratique du Congo par une journée consacrée à l'Église qui joue un rôle central dans ce pays, en proie à des violences endémiques. Mercredi, le souverain pontife a dénoncé les atrocités brutales commises dans l'est de la RDC. Il l'a fait après avoir entendu des récits poignants de violences dans cette région, déchirée par les conflits Mohamedou Houmfa.
Vos larmes sont mes larmes. Le pape François a lancé mercredi un vibrant appel devant les cruelles atrocités après avoir célébré une messe devant 1 million de personnes à Kinshasa. Au deuxième jour de sa visite, le souverain pontife s'est dit indigné devant l'exploitation sanglante et illégale de la richesse de la RDC, où les violences des groupes armés ont tué des centaines de milliers de personnes et jeté des millions d'autres dans la rue. À l'annonciature apostolique de Kinshasa, le pape a écouté 4 victimes du conflit raconter leurs histoires tragiques. L'une des victimes a déclaré que des militants l'avaient retenue comme esclave sexuelle pendant 3 mois et l'avaient forcée à manger de la chair humaine. Une femme a brandi ses 2 mains coupées devant le pontife qui l'a regardée d'un air grave avant de prononcer une allocution. François a condamné la violence inhumaine et appelé à la miséricorde de Dieu qu'il convertisse les cœurs de ceux qui commettent des atrocités brutales qui font honte à toute l'humanité, a déclaré le souverain pontife de 86 ans. Il a ajouté que le conflit dans l'est du Congo, riche en minerais, était motivé par la cupidité au détriment de victimes innocentes et a appelé les combattants à déposer les armes. « Écoutez le cri de leur sang », a dit le pape, faisant allusion à un verset du livre de la Genèse. Le pape se rend demain à Juba, la capitale du Soudan du Sud, théâtre d'une guerre fratricide depuis son indépendance.
Les États-Unis se sont alarmés hier de la libération par le Soudan d'un homme condamné à mort pour le meurtre d'un coopérant américain, tout en niant l'existence d'une entente entre les deux pays. Le point avec Rosine Mounezero.
Les autorités soudanaises ont libéré lundi Abdelraouf Abou Zaïd, qui a été condamné pour le meurtre de John Grenville, un employé de l'Agence américaine pour le développement international, âgé de 33 ans, ainsi que son chauffeur soudanais Abdelrahman Abbas, âgé de 40 ans. Les deux hommes ont été abattus en 2008 par des islamistes armés. Son avocat a déclaré qu'il s'agit d'une décision de justice s'inscrivant dans le cadre d'une compensation de 2020 offerte par le Soudan à Washington pour le terrorisme passé négocié par le premier ministre de l'époque, Abdallah Hamdok. Dans le cadre de cet accord, le Soudan avait versé 335 millions de dollars aux survivants américains et aux familles des victimes tuées lors des attaques passées. Le porte-parole du département d'État, Ned Price, a déclaré dans un communiqué qu'il était inexact que les États-Unis aient accepté la libération d'Abou Zaïd dans le cadre de l'accord de 2020, ajoutant que les États-Unis cherchaient à obtenir des éclaircissements sur sa libération et offraient 5 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation ou à la condamnation de 2 autres personnes soupçonnées d'être impliquées dans les meurtres de 2008.
Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez est arrivé ce mercredi à Rabat pour une réunion au sommet afin d'ancrer le partenariat stratégique entre les deux pays après une profonde crise diplomatique sur le Sahara occidental. Il a mis fin en mars dernier à un an de brouille en acceptant d'appuyer les positions marocaines sur ce territoire face aux indépendantistes sahraouis. Au menu également l'immigration clandestine et la lutte antiterroriste.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée israélienne et des combattants palestiniens de la bande de Gaza se sont livrés à des affrontements à coups de missiles et de roquettes ce jeudi avant l'aube, moins de 36 heures après une visite du secrétaire d'État américain venu plaider pour une désescalade. Ces affrontements sont restés limités. L'ONU a annoncé hier qu'une experte des droits humains va se rendre dans les prochains jours dans la prison militaire américaine de Guantanamo à Cuba. C'est une première après deux décennies de demandes refusées ou sans réponse. Le point avec Jean-Roger Bion.
La rapporteuse spéciale sur les droits de l'homme, Sionwalani Aolen, va effectuer une visite technique aux États-Unis, a indiqué l'ONU. Du 6 au 14 février, cette experte irlandaise, mandatée par le Conseil des droits de l'homme, mais qui ne s'exprime pas au nom de l'ONU, va se rendre à Washington et au centre de détention de la base de Guantanamo Bay. Elle va publier ses conclusions et recommandations à la fin de la visite. Le 15 mars 2022, elle avait annoncé avoir reçu une invitation de Washington pour organiser une visite technique. Trois mois après sa visite, elle va réaliser une série d'entretiens sur la base du volontariat aux États-Unis et à l'étranger avec d'anciens détenus de Guantanamo, des victimes, des familles de victimes des attentats du 11 septembre 2001. Les Nations Unies cherchent à avoir accès à cette prison militaire dans le sud-est de Cuba depuis son ouverture en 2002. Accusée de détention illégale, violation des droits humains et torture, la prison de Guantanamo a compté jusqu'à près de 800 prisonniers arrêtés à travers le monde et détenus, dont la plupart sans jugement. Aujourd'hui, Guantanamo ne garde que quelques 40 détenus.
Ici aux États-Unis, aux funérailles de Tyre Nichols, jeune Africain-Américain dont le passage à tabac mortel par des agents noirs a choqué les États-Unis, les intervenants, dont la vice-présidente Kamala Harris, se sont insurgés ce mercredi contre les violences policières. Eric Manirakidza.
La vice-présidente Kamala Harris a eu des mots durs envers les policiers qui ont roué de coups Tyre Nichols alors qu'il criait n'avoir rien fait et appelait à l'aide. Voici une famille qui a perdu son fils et son frère après un acte de violence perpétré par des personnes chargées de les protéger, a-t-elle martelé. Le pasteur Ash Upton, figure de la lutte pour les droits civiques, qui a prononcé l'oraison funèbre à la Mississippi Boulevard Christian Church, s'est dit particulièrement affecté par le fait que les cinq policiers soient eux-mêmes noirs. Dans la ville où Martin Luther King a perdu la vie, vous avez battu un frère à mort à tir lancé. Le président Biden prévoit de recevoir ce jeudi à la Maison-Blanche des membres de son groupe parlementaire pour discuter de la législation sur une réforme policière et d'autres priorités communes, selon une porte-parole. Hier mercredi, la police américaine se retrouvait à nouveau accusée d'usage excessif de la force après la mort en Californie d'un Africain-Américain amputé des deux jambes, tué par des agents lors d'une intervention pour une agression au couteau.
Washington a annoncé ce mercredi de nouvelles restrictions de visa envers certains talibans, actuellement ou anciens, des membres de groupes de sécurité non étatiques et d'autres individus considérés comme responsables ou complices dans la répression des femmes et filles en Afghanistan. C'est ce qu'a déclaré dans un communiqué le secrétaire d'État Anthony Blinken en réaction aux interdictions d'emploi et d'éducation faites aux femmes en Afghanistan. Ici à Washington, une bonne discussion, un échange franc, mais pas d'accord pour autant sur de brûlantes questions budgétaires à l'issue du premier face-à-face politique entre le président démocrate Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy. Ce conservateur reproche à M. Biden de dépenser de manière inconsidérée, tandis que ce dernier l'accuse de faire du chantage au défaut de paiement des États-Unis. La Minute Éco, Mohamedou Humpa.
La baisse significative des importations de moutons, couplée à une offre adéquate sur le marché, montre que le Sénégal est sur la bonne voie vers l'autosuffisance dans ce domaine, a déclaré mardi le ministre sénégalais de l'élevage et des productions animales. Selon lui, la demande nationale de moutons durant la Tabaski l'an passé s'est élevée à 810 000 têtes, largement satisfaite grâce aux quelques 900 000 moutons recensés dans les points de vente du pays. Plus de 2,8 millions de voyageurs sont passés par les points d'entrée ou de sortie de l'Afrique du Sud en décembre 2022, a annoncé mardi l'Office sud-africain des statistiques. Selon cet office, une comparaison entre les déplacements de décembre 2021 et de décembre 2022 montre que le volume des arrivées, des départs et de transits a augmenté tant pour les résidents sud-africains que pour les voyageurs étrangers. La Banque centrale tunisienne a annoncé mercredi que le taux moyen du marché monétaire avait poursuivi sa hausse en ce début d'année pour se situer à 7,96% en janvier contre 7,26% en décembre dernier. La banque explique cette tendance haussière par sa décision prise le 30 décembre d'augmenter son taux directeur, le faisant passer à 8% pour atténuer la hausse du taux de l'inflation et favoriser une reprise économique durable.
Merci, Mohamedou. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Mondial des clubs pour commencer, Al Ahly passe l'obstacle néo-zélandais.
Oui, les Égyptiens d'Al Ahly ont dominé hier mercredi à Tanger les Néo-Zélandais d'Auckland City 3-0 en match d'ouverture du Mondial des clubs et se sont qualifiés pour le tour suivant. Nous retrouvons à Casablanca notre correspondant Amin Birouk.
La logique a largement prévalu lors du match d'ouverture du Mondial des clubs. L'Ahly d'Égypte a largement tenu son rang face aux Néo-Zélandais d'Auckland City. Une victoire nette et sans bavure des récents finalistes de la Champions League africaine sur le score de 3-0 est venue concrétiser la domination des coéquipiers de Chinewi. Dans un grand stade de Tanger archi plein, les joueurs de l'Ahly ont attaqué ce match barrage tambour battant. Face au bloc défensif renforcé d'Auckland City, les Égyptiens ont pu prendre leur mal en patience avant de trouver la faille sur une frappe de loin de Hussein Shahat à la 44e minute de jeu. Moins crispés après le passage au vestiaire, les poulains du Suisse se colèrent pousser davantage pour augmenter leur rente. Leurs efforts étaient concrétisés peu avant l'heure de jeu sur un face-à-face victorieux de l'avant-centre Mohamed Chérif. Enfin, le Sud-Africain Percy Tau triplait la mise à quelques minutes du terme après une action collective de tout premier niveau. Elle y retrouve en quart de finale à Tanger samedi prochain les Américains de Seattle Sounders, une formation qui devra se méfier du métier des joueurs égyptiens, une formation de l'Ahly qui entend aller le plus loin possible dans la compétition en respectant largement le fameux dicton « l'appétit vient en mangeant ». Depuis Casablanca au Maroc, Amin Birouk, pour la VO Afrique.
Football américain à présent, Tom Brady annonce prendre sa retraite pour de bon cette fois-ci.
La superstar de la NFL l'a annoncé sur les réseaux sociaux. À 45 ans, Tom Brady dit mettre un terme à sa carrière pour de bon. Un an jour pour jour après avoir annoncé sa retraite sportive une première fois, puis de revenir sur sa décision quelques jours plus tard. Merci à tous pour m'avoir permis de vivre mon rêve absolu. Je n'aurais rien changé à ma carrière. Je vous aime tous, a déclaré le quarterback des Tampa Bay Buccaneers dans une vidéo publiée sur Twitter et Instagram, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NFL, vainqueur de 7 Super Bowls, un record absolu, l'ancien maître à jouer des New England Patriots entre 2000 et 2019 avec 6 titres à la clé, puis des Buccaneers de Tampa Bay de 2020 à 2021 avec un titre à la clé, aura connu une longévité exceptionnelle. Il a été désigné 5 fois MVP du Super Bowl et 3 fois de la saison régulière.
Merci Yacouba.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite. monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seguidia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le pape François a évoqué le pardon et la paix lors de la messe qu'il a célébrée hier à Kinshasa, où il effectue depuis mardi une visite de 3 jours. Pour en parler, Idi Isango a reçu dans nos studios l'abbé Jean-Claude Atusamesso du diocèse de Kikwit dans le Kwilu.
La synthèse du message du pape aujourd'hui, c'est que le pape apporte au peuple congolais un message de la réconciliation. Réconciliation entre eux, Congolais, mais aussi réconciliation avec le monde. Et son évangile d'aujourd'hui, c'est un message fort qui a voulu que le peuple congolais puisse comprendre leur vie dans la foi comme une vie de pardon, comme une vie communautaire, mais comme ils sont en mission. Ce qui est important dans ces messages du pape, c'est en même temps aussi, il donne le pouvoir et la force, la paix à ce peuple qui a été meurtri, qui a connu des morts, pour que le peuple se relève. Mais aussi, le pape a lancé un message fort. Je considère ce message du pape comme le message de Moïse devant Pharaon, qui a exigé à Pharaon de libérer le peuple de Dieu. Le pape demande aux grandes puissances de libérer le peuple congolais et de stopper tout ce qu'ils sont en train de faire pour voler les ressources naturelles et tuer le peuple. Il veut que la paix revienne au Congo et que le Congolais développe leur pays.
Quand le pape parle du pardon, il reconnaît quand même qu'il y a des grandes plaies au Congo. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment guérir de ces plaies, de ces tueries qui continuent? Il y a les forces extérieures, mais il y a aussi les forces internes.
Le message du pardon, c'est en même temps un message que nous devons considérer comme une force. C'est-à-dire que le pardon, c'est une guérison. On se guérit en pardonnant à ce bourreau, à ceux-là même qui nous ont tués, qui nous ont meurtris. Mais en même temps, ça nous donne la force de se relever pour combattre afin que prochainement les gens ne viennent plus continuer à nous faire souffrir, à nous assujettir.
Et le pape parle aussi d'élections, mais on est dans une période électorale. Qu'est-ce qu'il a dit spécifiquement par rapport aux uns et aux autres? Il y avait l'opposition, il y avait le pouvoir en place dans cette messe-là.
Le message fort du pape, c'est le message de la justice. Et il a recouru à Saint-Augustin pour dire que quand un peuple n'a pas de justice, les autorités qui sont dans ces pays-là sont considérées comme des voleurs. C'est un message que le pape a lancé auprès des autorités politiques pour qu'ils sachent qu'un pays est gouverné par la justice, par l'amour et que tous travaillent ensemble dans la même direction pour bâtir un grand Congo.
L'abbé Jean-Claude Atusamesso du diocèse de Kikwit.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La représentante spéciale de l'Union européenne vient de finir une visite de 3 jours aux États-Unis. Ici à Washington, elle a eu plusieurs rencontres avec des responsables américains sur la lutte contre le terrorisme dans les pays du Sahel. Les États-Unis et l'Union européenne sont parmi les plus gros bailleurs de fonds pour plusieurs pays de la zone sahélienne. Que fait l'Union européenne pour aider dans la lutte contre le terrorisme qui s'étend maintenant vers les pays du Golfe de Guinée? Idriss Fall a reçu dans nos studios à VOA Afrique Emanuela Claudia Del Rey, représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel.
L'Union européenne est très consciente de l'importance d'intervenir avec les pays du Sahel qui sont notre partenaire pour faire face à la menace terroriste. On a investi beaucoup sur le plan de fonds qui sont à disposition des pays du Sahel. On a défini une stratégie intégrée pour le Sahel concentrée surtout sur la question de la gouvernance parce que les racines profondes de la question du terrorisme sont vraiment liées à la manque de gouvernance et à la nécessité d'avoir de structure institutionnelle et surtout une situation sociale qui peut faire face aux attaques terroristes. Nous sommes le partenaire principal de tous les pays du Sahel. On travaille ensemble pour trouver des solutions qui sont vraiment efficaces parce que nous sommes convaincus que toutes les dynamiques qui se passent dans la région ont un impact en nous et ont un impact vraiment grave sur la région et la région mérite d'être stable, d'être prospère et d'avoir un futur.
Parlant de gouvernance, quand même, il y a beaucoup de jeunes enrôlés dans ces mouvements djihadistes.
Pour moi, les jeunes méritent d'avoir un espoir pour le futur. Et chaque individu mérite d'avoir l'opportunité de se réaliser comme il veut ou elle veut. Et c'est pour ça que l'Union européenne s'engage beaucoup sur le plan d'aider la jeunesse, de l'éducation. Par exemple, on va approfondir la question de l'employement. Ce sont toutes des choses qui agissent sur le plan social, mais le plan social est fondamental parce qu'on sait très bien la raison pour laquelle les jeunes acceptent l'offre négative du terrorisme est pour avoir quelque rôle dans la société. Alors, on doit offrir une alternative positive et surtout promouvoir l'individu comme agent social.
Ma dernière question, est-ce que l'Union européenne peut ou devrait s'engager militairement davantage pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel?
Nous avons fait beaucoup sur le plan sécuritaire. Nous avons entraîné beaucoup de soldats. Nous avons mis en place beaucoup de moyens pour aider les pays du Sahel à faire face à la menace terroriste, aussi de groupes criminels. Dans ce moment, on, par exemple, dans des pays comme la Mauritanie et le Niger, parce qu'on est convaincu qu'on doit rester engagé et être aussi impliqué sur les questions de sécurité. Bien sûr, la question de sécurité, comme je dis, est vraiment liée à la question du développement et on doit travailler ensemble avec notre partenaire africain, surtout avec les sahéliennes, pour trouver des solutions qui sont vraiment viables. On a besoin de messages très clairs sur leur volonté de rester engagé avec nous et surtout d'avoir une position, une posture qui démontre qu'il veut être avec nous et travailler avec nous pour le futur.
Emmanuela Claudia Del Rey, représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel. Au Cameroun, un millier de réfugiés nigérians qui avaient fui les exactions de Boko Haram sont rentrés la semaine dernière dans leur pays d'origine. Parmi eux, de nombreuses femmes qui bénéficient d'un programme de réinsertion socio-économique. Un reportage de notre correspondant Emmanuel Jultap au camp de réfugiés de Minao, dans le nord du pays.
Nous sommes au camp des réfugiés de Minao, dans l'extrême nord du Cameroun, proche du Nigeria. Les réfugiés s'enregistrent pour confirmer leurs intentions de retour volontaire à la veille du départ d'un convoi de rapatriement chez eux. Dans les rangs, Falmata Moussa, une mère de 6 enfants qui a passé 6 ans au Cameroun et retourne à Banki, une ville de l'état de Borno, au Nigeria.
J'ai une machine à coudre. Je compte m'installer là-bas pour développer mon activité. J'ai fait 1 an de formation avec M. Moïse de Plan International. Il nous a formés et nous avons acquis des capacités.
Comme Falmata, plusieurs autres femmes nigériennes, réfugiées du camp de Minao, ont bénéficié des formations professionnelles. Bettina Gambet est la représentante adjointe du ACRE Cameroun.
Beaucoup de femmes donc, ont bénéficié de ces formations. Donc là, c'est avec nos partenaires, mais également avec le MINPROF, où des formations professionnelles ont été dispensées, aussi bien certains domaines tels que la couture, la coiffure et autres. Et on a mis également un accent particulier sur des femmes qui avaient été victimes de violences, pour que, justement, quand une femme est victime de violence, dans la réponse, on essaie à ce que la femme puisse accéder assez rapidement à une activité professionnelle pour qu'elle puisse redevenir autonome et indépendante le plus rapidement possible.
Un volet assistance s'applique aussi lorsque ces anciens réfugiés regagnent leur pays d'origine. Hélène Ngo, porte-parole du HCR au Cameroun.
Ils bénéficieront d'un abri semi-durable. Il y aura aussi une assistance en cash, une assistance alimentaire pendant 6 mois. Il y a le plaidoyer que le HCR fait pour les activités génératrices des revenus. Le plaidoyer est vraiment transversal pour faciliter la réintégration de ces réfugiés dans la société ou dans la communauté dont ils vont se retrouver. Donc,
66 000 réfugiés nigériens, dont majoritairement des femmes et des enfants, ont été accueillis au Cameroun depuis 2013. Entre mars et avril 2021, plus de 3 800 sont rentrés volontairement. Leur insertion socio-professionnelle se passe plutôt bien, d'après Lawan Abba Walkibé, commissaire à l'éducation dans l'état de Borno.
Tout est prêt pour recevoir ce convoi des réfugiés. Si vous voyez avec les derniers que nous avons accueillis, tout l'accompagnement en leur faveur est un succès. Il n'y a pas de point négatif. Donc, nous sommes prêts pour les recevoir et les réintégrer normalement.
Le Haut Commissariat pour les réfugiés assure que les ex-réfugiés femmes regagnent leur localité d'origine, munis des documents officiels tels que les actes de naissance de leurs enfants nés au Cameroun, afin de faciliter leur éducation. Emmanuel Zuntap, depuis le camp de réfugiés de Minao, pour VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Allons maintenant à la découverte d'une application conçue pour imiter une conversation humaine fondée sur les demandes de l'utilisateur. Le chatbot ChatGPT, c'est ainsi que se nomme cette technologie qui utilise l'intelligence artificielle. Elle a attiré l'attention l'année dernière dans la Silicon Valley. Les détails avec Ginny Nua.
Le lundi 23 janvier, la société Microsoft a annoncé un nouvel investissement de plusieurs milliards de dollars dans OpenAI, inventeur de ChatGPT basé à San Francisco. ChatGPT utilise ce que l'on appelle l'IA générative, une technologie qui peut apprendre comment créer pratiquement n'importe quel type de contenu simplement à partir d'une invite de texte, ce qui ouvre la voie à une concurrence accrue avec Google.
GPT signifie Generative Pre-trained Transformer. C'est un modèle d'intelligence artificielle qui est formé sur un très grand ensemble de données de texte. Vous pouvez lui donner une entrée et il vous fournira une sortie. En gros, ce qu'il fait, c'est continuer d'écrire ce que vous lui avez demandé. Si vous lui avez posé une question, il y répondra. Si vous lui demandez de continuer ce que vous écrivez, il le fera.
OpenAI déclare que son modèle ChatGPT peut simuler un dialogue, répondre à des questions de suivi, admettre des erreurs, contester des hypothèses incorrectes et rejeter des demandes inappropriées.
ChatGPT est un modèle de langage. Ainsi, dans le terme le plus simple possible, un modèle de langage est un modèle statistique qui prédit le mot suivant dans une séquence de mots. Ce n'est pas une chose nouvelle. Ils ont été inventés, en fait, au début des années 1990, donc il y a des décennies. Bien sûr, il y a une petite révolution dans les modèles statistiques depuis lors. Donc, les premières versions avaient de très très petits réseaux de neurones. Et depuis lors, les réseaux de neurones se sont agrandis. Ils sont devenus plus profonds. Ils ont été formés sur une quantité inouïe de données. Et bien sûr, il y a eu toute cette révolution du cloud computing. Nous avons donc maintenant des degrés énormes de puissance de calcul pour former ces modèles sur de nombreuses données.
Comme pour de nombreuses innovations basées sur l'IA, ChatGPT ne va pas sans inquiétude. La technologie de l'IA peut également perpétuer des préjugés sociétaux comme ceux concernant la race, le sexe et la culture. Les géants de la technologie, dont Google et Amazon, ont précédemment reconnu que certains de leurs projets qui expérimentaient l'IA étaient éthiquement risqués et avaient des limites.
L'application de ces choses dans les chatbots est évidente et je suis sûr qu'il existe des preuves de concept. En fait, même des produits utilisant quelque chose comme ça. La façon dont je l'utiliserais en ce moment, si j'étais un adversaire et si je faisais quelque chose de malveillant, j'écrirais un script qui contient des tweets et créerais ensuite des réponses harcelantes toxiques, où j'y mettrais des tweets politiques et je les remplacerais soit contre eux, soit pour les soutenir. Influencer ce que serait le paysage politique perçu sur les réseaux sociaux, par exemple. Ainsi, vous pourriez automatiser le harcèlement des individus.
Un outil comme ChatGPT pourrait être utilisé dans des applications du monde réel, telles que le marketing numérique, la création de contenu en ligne, répondre aux questions du service à la clientèle ou comme certains utilisateurs l'ont réalisé, même pour aider à corriger les erreurs d'un logiciel.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seguidia, à la mise en onde, Lionel Ronanira Gaïma, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages sur Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée.